Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, l'émission Campus Lille Info. Comme chaque mercredi, entre 16h et 16h30, un magazine réalisé avec le partenariat de l'Université de Lille. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet important et assez grave d'ailleurs, puisqu'il s'agit des fractures, et notamment des fractures liées à l'ostéoporose. La prévention des fractures, c'est le thème de cette émission, et nous allons donc avoir deux invités, une qui est présente dans notre studio, et qui est donc madame le docteur Claude Gadi-Cherrier. Bonjour madame.
Bonjour.
Et puis le professeur Patrice Fardellone, qui est rhumatologue au CHU d'Amiens et coordinateur de la filière fracture, que nous accueillons par téléphone. Bonjour monsieur Fardellone.
Bonjour monsieur Lavergne.
Voilà, donc on va entrer dans le vif du sujet. Des fractures, eh bien chacun peut en être victime. Il y a certains âges où ça devient plus complexe et peut-être plus fréquent, c'est bien cela monsieur Fardellone ?
Et cela concerne un peu plus la femme que l'homme, et surtout après la ménopause, où la perte osseuse est accélérée et le risque de faire des fractures est augmenté.
Alors, on va voir au cours de cette émission, est-ce qu'il y a des solutions et peut-être de la prévention à mettre en place ? Peut-être faire un état des lieux, donc vous disiez beaucoup plus de femmes que d'hommes sont touchées par l'ostéoporose.
Oui, absolument. Alors, la fracture, qui est la principale complication de l'ostéoporose, elle est fréquente, elle est grave, elle est source de handicap et d'une forte mortalité. Il ne faut pas oublier que la fracture du col du fémur, elle tue plus que le cancer du sein. Et puis, elle est coûteuse pour la société. Alors, la fracture est déjà la complication de l'ostéoporose, mais si on considère cette complication, la situation actuelle est peu reluisante parce que peu de patients souffrant de ces fractures vont avoir un traitement spécifique de l'ostéoporose. Il y a des études très récentes, notamment une étude qui s'appelle Fractos, qui montre bien que parmi les patients ayant déjà été victimes d'une fracture, à peu près 10% seulement vont bénéficier d'un traitement qui leur permettra d'éviter la deuxième fracture. C'est pour ça qu'on a un leitmotiv qui est « la première fracture doit être la dernière ». Et dans les Hauts-de-France, un certain nombre de programmes ont été mis en place pour essayer de mettre ça en œuvre afin justement de limiter ce fléau. Fléau qui est expliqué aussi par le vieillissement de la population. Et cela est probablement une des raisons pour lesquelles le président de la République, en septembre 2018, dans son plan Ma Santé 2022, a mis au premier plan la lutte contre l'ostéoporose et les fractures dans son programme de santé.
Alors, est-ce que certains pays sont plus ou moins touchés par ces problèmes ? Est-ce qu'on est inégaux aussi
C'est une question intéressante. Parce que c'est vrai, on est inégaux devant le risque de la fracture, le risque de fracture. Un bon indicateur, c'est la fracture du col du fémur. Parce qu'on a des chiffres assez précis, vu que la fracture du col du fémur amène obligatoirement à une hospitalisation. Et on voit que ce risque se distribue de façon très inégale dans le monde. Sur la planisphère, on a par exemple un risque qui va en augmentant de la Méditerranée vers les pays scandinaves, hein, donc pour ce qui est de l'Europe, un risque qui est relativement peu important en Afrique noire et un risque qui est très élevé également dans les pays anglo-saxons et qui n'est pas négligeable dans les pays asiatiques.
Mmh. Donc là, on parle d'une même génération, on va dire, de personnes qui ont entre 50 et 70 ans. Tout le monde...
Oui, alors en fonction de l'âge, les fractures ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, la fracture de la vertèbre, qui est redoutable, va survenir relativement tôt, vers l'âge de 60 ans. La fracture du col du fémur est une fracture plutôt tardive, vers 80 ans. ce qui explique aussi sa lourde mortalité, puisqu'après une fracture du col du fémur, 25% des sujets vont mourir dans l'année. Les fractures du poignet sont relativement précoces dans la vie d'une femme ostéoporotique. Vous avez comme ça des distributions qui sont le reflet aussi de l'âge des gens et puis de leur capacité et de leur aptitude à tomber.
Fracture du bassin aussi ?
Alors les fractures du bassin, c'est des fractures de la personne âgée qui ont un pronostic sévère, hein, le même que celui des fractures du col du fémur. C'est une fracture redoutable qui expose les personnes qui en sont touchées à des complications liées à leur alitement, ce qu'on appelle les complications de décubitus.
Est-ce que le vieillissement d'une personne est peut-être à mettre en phase avec ses problèmes justement d'ostéoporose ?
Oui, alors bien sûr, l'ostéoporose, c'est la perte osseuse, c'est l'os qui devient poreux. Et cela traduit souvent l'histoire de toute une vie. À travers les maladies qu'on va rencontrer, certains médicaments, tout ceci peut engendrer une perte osseuse qui va se traduire dans la deuxième partie de la vie par un risque augmenté de fracture. Au centre de tout ça, il y a bien entendu la masse osseuse, la quantité d'os dont on dispose. Celle-ci est en grande partie réglée par la génétique. On ne peut pas faire grand-chose à part choisir bien ses parents avant sa naissance. Eh bien, donc, il y a 60 à 70% du déterminisme de la masse osseuse et donc des fractures qui est d'origine héréditaire. Mmh. C'est pour ça qu'il y a des ethnies, comme on vient d'en parler, de le dire, qui sont plus susceptibles que d'autres d'avoir des fractures. Il y a des familles d'ostéoporotiques. Et puis ensuite, l'ostéoporose est conditionnée par notre mode de vie, ce qu'on mange, l'exercice physique, des mauvaises habitudes comme le tabac et l'alcool. Et tout ceci va contribuer à faire qu'on va perdre plus ou moins rapidement de l'os et qu'on va s'exposer donc de façon plus ou moins importante à un risque de fracture. Et puis, quand on vieillit, à côté de l'aspect osseux des choses, il y a la propension à chuter, à tomber. Mmh. Et là, c'est quelque chose de très important. À 80 ans, la moitié du risque est liée à l'ostéoporose, l'autre moitié est liée au risque de chuter.
Alors, en France, on est un pays où on consomme pas mal de médicaments, parfois trop de médicaments, et on les mélange un peu dans la journée. Est-ce que ça peut avoir une incidence aussi sur la fragilité osseuse ?
Vous avez tout à fait raison. Alors, il y a des médicaments qui ont un impact sur la fragilité osseuse, sans remettre en question l'intérêt de leur indication, parce qu'il y a des médicaments dans des maladies dont on ne peut pas se passer. Alors, je pense à la cortisone. Je pense à des médicaments qui sont des traitements adjuvants dans certains cancers, notamment le cancer du sein. Ça, c'est une partie du problème sur lequel on peut avoir d'ailleurs des actions de prévention parce que là, on sait bien repérer ces patients. Et puis, il y a des traitements qui vont exposer au risque de chute parce qu'on va peut-être les surutiliser, notamment chez les personnes âgées. C'est des médicaments comme les hypnotiques pour dormir, comme les hypotenseurs qui peuvent donner lieu à des malaises, à des vertiges. Tout ceci peut, dans le cadre d'une iatrogénicité, augmenter le risque de chuter chez les personnes âgées et ça les expose à des fractures. Hein. 2% des chutes chez les personnes âgées vont donner des fractures.
Est-ce qu'un entretien par les personnes en faisant du sport, ça peut aider ou pas ?
Ah, le sport est utile à tous les âges. Il est important aussi bien chez les jeunes parce qu'il va participer à optimiser le gain de masse osseuse pour fabriquer son squelette tout neuf. Mais chez la personne âgée, il a un intérêt pour maintenir la masse osseuse. Le squelette adore être mis en contrainte. Il adore avoir un poids sur lui-même. Ça le maintient. Mais aussi, l'exercice physique va pouvoir lutter contre la perte musculaire, ce qu'on appelle la sarcopénie chez la personne âgée, qui expose à une faiblesse des jambes et donc à un risque de chute. Et puis, ça entretient l'équilibre et on peut comme ça promouvoir des sports, voire même plus, au sens plus large, une activité physique. Ça peut être la danse de salon, ça peut être la marche, ça peut être des choses très très simples et qui sont facilement applicables.
Bon, les chutes de vélo, c'est dramatique.
Les chutes de vélo, c'est des chutes traumatiques et tout le monde peut se casser un os.
Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée dans la région des Hauts-de-France ? Est-ce que le problème est, j'allais dire, plus épineux que dans d'autres régions ?
Alors, dans les Hauts-de-France, on a des spécificités en termes de maladies. Hein. On a un peu plus d'obésité, un peu plus de cancer. On a une population un peu plus jeune, ce qui nous protège relativement contre les fractures, mais néanmoins, il y a des déficits en termes de couverture, peut-être de densité médicale, ou plutôt des déséquilibres qui font que il y a des régions désertifiées où les personnes âgées n'ont peut-être pas accès facilement à des soins, à de la prévention, et ce qui va les exposer à peut-être faire plus de fractures.
Alors, pour les personnes qui ont 50, 60 ans, on les encourage parfois à aller rendre une petite visite à un cardiologue, par exemple. Est-ce qu'il y a, dans ce domaine de la prévention, aussi des possibilités contre l'ostéoporose ?
Alors, bien entendu, il y a un carrefour dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Et à la ménopause, c'est le moment de faire un peu le point sur un tas de problèmes de santé, et notamment sur la santé de son os, de son squelette. On a dit beaucoup de mal à un certain moment du traitement hormonal de la ménopause, à la lumière de quelques études, mais on revient un petit peu sur ces notions, et il va arriver un moment où il va falloir quand même un peu réhabiliter ce traitement-là, qui est extrêmement efficace dans la prévention de la perte osseuse, et quand il est bien prescrit et au bon moment, c'est-à-dire assez précocement, pour la prévention des maladies cardiovasculaires, en respectant bien entendu toutes les contre-indications qu'on connaît bien. Et puis, il y a aussi des événements dans la vie d'une femme qui sont très importants, notamment, on en a parlé tout à l'heure, c'est la première fracture. À 50 ans, dans ce qui lui reste à vivre, c'est-à-dire quasiment autant, une femme a un risque... un risque sur deux, pratiquement, de présenter une fracture ostéoporotique, ce qui est énorme. Donc, il ne faut pas passer à côté du dépistage de l'ostéoporose quand cette femme va présenter une fracture, que ce soit une fracture du poignet, que ce soit une fracture de côte ou de n'importe quel os, en se disant « bah oui, c'est normal, je suis tombé, donc j'ai fait une fracture ». Non, il faut se poser la question si derrière tout ça, il n'y a pas une fragilité osseuse, la diagnostiquer et la traiter quand il le faut.
Oui, parce que quelqu'un peut très bien tomber à cause d'une fracture et pas s'être fracturé suite à une chute.
C'est un autre problème, oui. Alors, c'est évoqué dans les fractures du col du fémur, où, bien entendu, la plupart du temps, elles surviennent à l'occasion d'une chute, hein, une chute sur le côté, on tombe sur le côté de sa hanche et on se casse le fémur. Il y a, dans un très très faible pourcentage de cas, entre 2 et 5%, des femmes qui vous disent « Oh, j'ai senti une douleur dans l'aine et puis ensuite j'ai senti un craquement et je me suis effondré. » Mais ça, c'est rare, c'est anecdotique par rapport à celles qui sont liées directement aux chutes.
D'accord. Donc, est-ce qu'en termes de nutrition, on peut aussi donner des conseils à nos auditeurs ?
Absolument. Alors, en nutrition, il ne faut pas oublier que l'os, c'est quand même des protéines sur lesquelles il y a du calcium, ce qui veut dire que les protéines et le calcium sont très importants pour à la fois fabriquer son squelette, ça c'est quand on est enfant et adolescent, mais également pour le préserver, c'est dans l'autre extrémité de la vie. L'enfant et l'adolescent, il a été démontré scientifiquement que quand on augmente sa ration en calcium, eh bien, il va faire plus d'os. Et pour cela, on a un laps de temps qui est relativement limité, hein, puisque la fabrication du squelette, c'est les 2 à 3 premières décennies de la vie. Pour atteindre ce qu'on va appeler le pic de masse osseuse, c'est-à-dire le sommet qu'on ne pourra plus dépasser par la suite en termes de capital osseux. Donc il faut l'optimiser, il faut optimiser ce que notre patrimoine génétique nous autorise à acquérir comme os en mangeant et du calcium, et de façon importante, hein, puisqu'on recommande pour les adolescents notamment 1200 mg par jour, et puis des protéines également, faire de l'exercice physique. Et puis pour les personnes au-delà de 50 ans, et c'est encore plus vrai pour les personnes âgées, il faut manger de la viande et il faut manger des produits laitiers pour qu'on puisse, avec ces deux nutriments essentiels, conserver son os en bonne santé.
Alors, au niveau des produits laitiers, on a parfois des personnes qui ont une considération un peu particulière sur les produits laitiers, notamment le lait de vache, en disant le lait de vache, c'est pour les veaux. Enfin, vous voyez de qui je parle.
Je vois.
On a aussi
dans le domaine de la fake news.
Et puis, on a aussi des gens qui, là, pour le coup, ont une hygiène de vie différente, c'est-à-dire qui ont choisi de devenir végétarien. Est-ce que, à terme, cette génération-là peut avoir des problèmes ?
Alors, bien sûr, les produits laitiers ne sont pas les seules sources de calcium dont on dispose. On en trouve dans certaines eaux minérales, dans certains végétaux. Mais grosso modo, dans notre alimentation, on va dire métropolitaine, il nous procure entre 60 et 70% de notre calcium alimentaire quotidien. Si on se prive de, si on est végétarien, ça veut dire qu'on ne mange pas de viande. On peut donc manger des produits laitiers. On peut boire du lait. Ceci ne l'empêche pas. Si on est végétalien, donc on va supprimer tous les produits d'origine animale. Et là, on risque certaines carences, notamment en calcium. Il faut donc être très vigilant et s'entourer de conseils qui nous permettront de compenser ce que l'alimentation risque de ne pas apporter.
Donc alors, peut-être que pour les jeunes actuellement, le problème ne se pose pas tout de suite, mais que dans, enfin, quand ils auront 60 ans, 70 ans, il y aura eu des conséquences à des régimes.
À des régimes, disons, non compensés, non équilibrés, non appropriés.
D'accord. Donc, on a aussi des gens qui sont peut-être anxieux par rapport à ça, parce qu'ils ont eu un parent qui est tombé, qui a eu ce problème-là. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du facteur génétique qui peut entrer en jeu, hein, mais vous avez aussi donné des conseils pour éviter le plus possible d'en arriver là. Est-ce que si on va voir son médecin, le médecin automatiquement va pouvoir prescrire par exemple une radio, ou c'est uniquement à l'occasion d'une chute, d'une fracture, que ça commence à être le problème?
Alors, il y a des circonstances devant lesquelles le médecin doit réagir et se poser la question, notamment devant une dame ménopausée, de savoir si il faut entamer chez elle un bilan diagnostique qui est centré par la densitométrie, hein, qui est un examen simple, coûteux, peu irradiant, qui est assez prédictif de la fracture. Et il y a des recommandations très précises de la Haute Autorité de Santé pour savoir chez qui on doit pratiquer cet examen. Vous faisiez allusion à l'aspect génétique. Eh bien, si vous avez un parent du premier degré, donc c'est-à-dire un père, une mère, un frère, une sœur, qui a fait une fracture du col du fémur, c'est une obligation pour vous de faire une densitométrie, parce que ce facteur-là est un facteur de risque important pour vous-même d'être porteur d'une ostéoporose. Il y a d'autres éléments qui sont importants, une ménopause précoce, une maladie générale, chronique, le fait d'avoir été traité par cortisone pendant une longue période de temps, enfin une longue période, 3 mois, des choses comme ça, d'être très maigre, par exemple, c'est un facteur de risque.
Est-ce que les médecins sont suffisamment sensibilisés à ces problèmes-là?
Ah, peut-être pas assez, puisque on est malheureusement dans une situation un peu dramatique où depuis 7 à 8 ans, on voit baisser le nombre de densitométries qui sont prescrites, on voit diminuer le nombre de traitements initiés dans l'ostéoporose. On perd du terrain, et c'est pour ça que les hommes politiques comme les acteurs de santé publique et tous les médecins se mobilisent pour essayer d'augmenter un petit peu la qualité de cette prise en charge. Alors il y a différentes actions qui sont menées, notamment dans les Hauts-de-France.
Voilà, donc je pense qu'on va voir ce sujet avec le docteur Claude Gadi-Cherrier qui est avec nous. Est-ce que vous auriez quelques conseils ou peut-être quelques points qu'on n'a pas encore abordés dans notre conversation et que vous souhaiteriez mettre en valeur?
Alors oui, c'est que chacun doit être acteur de sa propre santé. Et vous savez, nos médecins sont parfois en nombre insuffisant et sont un peu débordés. Et donc, il faudrait que les femmes, notamment, qui ont des facteurs de risque d'ostéoporose, puissent aller se présenter devant leur médecin pour dire « Voilà, docteur, j'ai fait une fracture, donc je suis allé aux urgences, on m'a réparé mon os, mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire ?» Et le médecin, c'est à lui de prendre en charge ce risque-là, de voir s'il y a une ostéoporose, de faire une densitométrie, éventuellement de mettre en place un traitement. Voilà, il faut que chacun se sente un peu investi dans ce domaine-là.
Bien, merci beaucoup, donc professeur Patrice Fardellone. Je rappelle que vous êtes rhumatologue au CHU d'Amiens et coordinateur de la filière fracture. Merci pour votre intervention et très bonne journée.
Je vous remercie.
Alors, on va continuer notre présentation de ce problème, hein, la prévention des fractures. Vous êtes sur Radio Campus 106,6 FM. Nous sommes en direct avec aussi donc le docteur Claude Gadi Cherrier, qui est directrice du service médical de l'assurance maladie en Hauts-de-France. Alors, Madame Gadi Cherrier, vous avez entendu donc le professeur qui faisait un petit peu le bilan médical de la situation de ce problème. Est-ce que au niveau de l'assurance maladie, il y a une prise en compte et en charge de ce type de problème?
Alors tout d'abord, le professeur Bartolone, nous le connaissons et nous travaillons ensemble dans cette région. Comme il l'a dit, c'est un problème de santé publique qui a été mis en exergue par notre président, repris par la ministre de la Santé. Et dans notre région, comme dans d'autres, avec l'État représenté par l'ARS et donc l'assurance maladie, nous travaillons aux côtés des professionnels de santé pour améliorer la prévention de ces fractures.
Est-ce que ça représente un nombre important de personnes prises en charge, soignées et bien sûr accompagnées en termes de financement aussi, enfin de prise en charge des soins?
Alors, c'est comme l'a dit Monsieur Bartolone, c'est un peu compliqué d'avoir des données exactes parce que ces fractures, on a un volume après 50 ans, mais il est difficile de savoir si ces fractures sont dues à de l'ostéoporose, ce que l'on pense, ça peut être dans les cas les plus fréquents, mais il y a aussi d'autres cas qui vont générer des fractures. Par contre, on a parlé de prévention et notre objectif, c'est vraiment de travailler sur cette prévention. On a un examen dont vous avez parlé, qui est l'ostéodensitométrie, qui a donc des indications qui sont bien précises et qui devraient être réalisées pour toute personne qui a un risque élevé, en particulier des personnes qui ont déjà eu une fracture. Dans les Hauts-de-France, en 2017, on en a réalisé plus de 47 000. Donc ça paraît important, et si on se réfère à ce que dit la Haute Autorité de Santé, ça correspond en fait au volume qui serait nécessaire de faire. C'est-à-dire qu'on estime qu'il y a effectivement par an 47 000 personnes qui seraient en risque de fracturaire et donc qui devraient avoir cet examen. Sauf que si on regarde un peu plus en détail, on se rend compte que plus de 8 personnes sur 10 qui ont eu cet examen n'ont pas eu de traitement avant, n'en ont pas eu après. Donc en fait, ce n'est pas les bonnes personnes. Ce qui veut dire que là, on a un examen qui est fait pas forcément aux bonnes personnes, mais ce qui veut dire aussi qu'il y en a d'autres qui échappent et que la majorité n'ont pas cet examen. Donc c'est sur cette partie-là que nous allons travailler, et nous travaillons avec les professionnels de santé parce qu'on a l'impression que ce problème de santé publique est un peu... est un peu minimisé, c'est-à-dire que tous les acteurs, les médecins comme les patients, ne se rendent pas compte de la gravité des choses.
Donc ils ne s'en rendent pas compte tant qu'ils n'ont pas un signe évident de problème, donc des chutes dont on parlait. Quand il y a une chute, on est a priori transporté par les pompiers, souvent en ambulance ou peu importe, et on se retrouve dans l'hôpital du quartier, qui est celui de la zone, on va dire. Est-ce que tous les hôpitaux sont capables de répondre à ces problèmes?
Alors, oui. En théorie, oui. Si je continue dans l'étude que nous avons menée, qui a été menée d'ailleurs par la CNAM au niveau national, qui a été repris par le ministère, et que l'on a un peu approfondi régionalement, on se rend compte que quand des gens de plus de 50 ans qui ont une fracture, qui sont hospitalisés pour cette fracture et qui ressortent de l'hôpital, on peut s'attendre à ce que ces patients sortent avec un traitement. Or, on est entre 10 à 13% seulement de ces patients qui ressortent avec un traitement. Ce qui veut dire que l'immense majorité, hein, plus de 7 sur 10, finalement, le traitement n'est pas mis en place. Et dans ces patients, on en a encore une partie qui est importante, plus de 50%, qui ne va pas consulter son médecin généraliste tout de suite. Donc on voit bien que là, on a quelque chose à faire, puisqu'on a un moment où on a les patients, on a cet épisode qui s'est réalisé. Alors, c'est sûr, on est peut-être dans une prévention un peu tardive, mais au moins à partir de ce moment-là, ce que l'on essaye de faire, c'est de sensibiliser toute la chaîne de la prise en charge du patient à partir de là pour obtenir une prise en charge et pour éviter la deuxième fracture.
Est-ce qu'il y a parfois un délai qu'on retrouve à peu près semblable entre la première et la deuxième fracture? Est-ce qu'on peut se dire, si on n'a pas fait de rechute dans les 10 ans, on est tranquille?
Alors, ce que l'on a regardé, nous, on a pris un délai de 6 mois. Et à 6 mois, on a quand même, je ne vais pas vous dire de bêtises, je vais retrouver mes chiffres, mais on est quand même sur un nombre assez important qui doit être de plus de 10% des patients qui ont refait une fracture à 6 mois.
Est-ce qu'un os qui a été fracturé, qui a été rétabli, on va dire, peut aussi recasser au même endroit ?
Alors là, je laisserai les spécialistes en parler, mais c'est pas là qui va être le plus fragile. Oui. Mais vous pouvez très bien avoir fait cette maladie étant une maladie qui touche l'ensemble du squelette. Si vous avez fait une fracture du col du fémur, vous pouvez très bien refaire une fracture de l'autre côté, ou plus tard une fracture des vertèbres. Ou voilà. Donc c'est pas parce que vous avez fait une fracture que vous êtes immunisé. Ce n'est pas comme certaines maladies.
Voilà. Et est-ce qu'il y a des fractures dont on ne guérit pas ? Et est-ce que l'âge joue aussi sur cette non-guérison ?
Alors, c'est ce que disait tout à l'heure le professeur, c'est que quand vous êtes à un âge avancé avec des patients qui ont d'autres pathologies chroniques, qui peuvent avoir des problèmes de motricité, le fait d'avoir une fracture va créer un handicap qui va être difficile à surmonter. Et qui peut aller jusqu'à à entraîner le décès du patient avec des complications importantes. Donc effectivement, il est extrêmement important d'éviter au moins une refracture avec toutes les en prenant en charge, comme l'a décrit le professeur Vatolen tout à l'heure, les patients.
Voilà, donc ça suppose aussi peut-être une hygiène de vie et aussi éviter certains excès dans les mouvements, voire le sport peut-être pour certains qui pratiquent, ou est-ce que le sport peut galvaniser d'une certaine manière ou immuniser certaines personnes ?
Alors de façon plus générale, je dirais que chaque cas est unique et ce que l'on essaye de faire, c'est vraiment d'impliquer les soignants et d'obtenir à partir de cette détection du risque d'ostéoporose, une prise en charge des patients qui va être adaptée, et donc de sensibiliser les professionnels de santé qui vont les suivre, les médecins, mais bien sûr au centre desquels est le médecin généraliste, mais aussi les kinés, les infirmiers, etc., pour qu'on ait des conseils qui soient adaptés à chaque patient et qu'on ait vraiment un suivi de ces patients.
Alors, on parle beaucoup actuellement, enfin depuis 20 ans, 30 ans, quand je dis actuellement, c'est des difficultés de la sécurité sociale, des trous, etc. Est-ce qu'on a encore les moyens de bien soigner ce type de maladie, tant en prévention qu'en soins opératoires ou post-opératoires ?
Alors, vous savez, l'assurance maladie, l'objectif, c'est de soigner au mieux, au meilleur coût. Dans le cas présent, l'objectif, on est bien sur de la prévention et sur des soins de qualité. La non-qualité coûte cher, la qualité ne coûte pas cher. Ce qui coûte cher, c'est ces fractures. Ces fractures, ça coûte, on estime, France entière, en un an, ça coûte plus d'un milliard. Éviter ces fractures, c'est éviter ce coût. Mais le coût, c'est un coût humain, parce que derrière ces fractures, il y a des hommes, il y a des femmes qui vont avoir des gros problèmes, qui peuvent avoir une perte d'autonomie, ce qui veut dire qu'ils ne vont pas pouvoir rester chez eux. C'est des situations où on a des patients, suite à ces fractures, qui vont se retrouver en établissement institutionnalisé parce que ne pourront pas rester à domicile. Donc et là, avec un coût, alors si vous voulez parler coût, on a un coût important, mais le coût important, c'est un coût humain, surtout.
Non. Beaucoup de personnes sont hospitalisées mais rentrent rapidement chez elles. Hein. De plus en plus, on rentre rapidement. Hein. Est-ce que les familles sont préparées à poursuivre, on va dire, le traitement ou prendre les précautions nécessaires pour que le rétablissement se passe bien ?
Alors, on a un programme que l'on a mis en place nationalement, Assurance Maladie, qui s'appelle un programme de retour à domicile, PRADO, dont l'objectif, et qui est développé en particulier dans les suites d'interventions chirurgicales et de fractures, avec un volet particulier quand on est dans ces risques d'ostéoporose, hein, qui en fait, dont le rôle est de faciliter le retour à domicile des patients, en rentrant en contact avec les professionnels de santé qui vont les suivre, au premier rang duquel le médecin, mais aussi le kiné, l'infirmière, c'est-à-dire en prévoyant le retour à domicile, en prenant les rendez-vous, en contactant les professionnels de santé, en faisant le lien avec l'hôpital, et puis sur un volet social, où on va organiser aussi le retour à domicile, le portage du repas, ce genre de choses. Voilà. Donc on a un programme pour aider. L'objectif, c'est bien de faire rentrer les gens, comme vous le dites, à la maison, parce que tout le monde préfère être chez soi que d'être institutionnalisé.
Alors, quand on fait une chute, une personne âgée qui chute, il y a des systèmes, hein, par exemple, pour détecter les chutes, des bracelets ou des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? À partir de là, les pompiers peuvent être amenés à intervenir, bien sûr. Ils n'ont parfois pas la solution rapide pour ouvrir les portes. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme système pour favoriser leur entrée dans les maisons de personnes qu'on peut considérer comme sensibles ?
Alors, je ne suis pas vraiment, je pense, tout à fait compétente pour vous répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que la première chose, là encore, c'est de la prévention. Parce qu'on a parlé de prévention de l'ostéoporose, mais on l'a rappelé aussi tout à l'heure, c'est qu'il faut aussi faire de la prévention de la chute. La prévention de la chute, ça passe premièrement, oui, par faire attention aux traitements qui sont donnés à ces personnes âgées, et on sait qu'en particulier les benzodiazépines, hein, les médicaments pour dormir, sont un pourvoyeur très important de chute et donc de fractures, mais également dans l'amélioration de l'habitat. Et c'est des choses, il y a des subventions pour ça, c'est pas bien connu, nous on peut les mettre en place, on peut aider les gens à les mettre en place, c'est éviter, expliquer aux personnes âgées que faut pas que les escaliers glissent, c'est mettre des rampes de sécurité, c'est ce genre de petites choses qui permettent en fait d'adapter l'habitat, et encore une fois il y a des aides qui peuvent permettre d'aider les patients à ce genre de choses et qui vont prévenir la chute, il mieux toujours arriver en amont.
Et peut-être on peut imaginer aussi de changer d'habitation si nécessaire, si l'escalier est trop raide, ou échanger, pourquoi pas échanger avec quelqu'un qui aurait un plein pied.
Oui, enfin, quand vous, les patients sont en général, enfin, les personnes sont en général très attachées à leur chez eux. Hein.
Voilà, donc tout ça, c'est une question d'équilibre, évidemment, pour éviter les mauvaises chutes. Merci d'avoir présenté donc le côté assurance maladie de ce problème lié à la prévention des fractures. Est-ce que, docteur Claude Guy-Chartier, vous voudriez ajouter quelque chose pour compléter ce qu'on vient de dire ?
Simplement que dans la région, on a quand même des équipes hospitalières et universitaires qui sont extrêmement dynamiques. On a des projets de recherche et des projets d'action avec l'ARS également, puisqu'on l'a mis dans le programme régional de santé, qui sont de très bon augure. Et je pense qu'on va pouvoir, dans cette région, prendre le projet et ce problème à bras-le-corps.
Alors pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient en savoir plus, est-ce qu'il y a un site à conseiller ?
Alors, vous pouvez aller, sur le site Assurance Maladie Amélie, où vous aurez, si vous tapez ostéoporose, vous allez avoir des renseignements sur ce qu'est l'ostéoporose, sur les traitements que l'on peut faire, sur etc. Et puis, je pense qu'à l'université, ils ont aussi un site, des renseignements qu'on peut avoir dans les services universitaires, donc CHU en particulier, rhumatologie.
Voilà, et puis en ce qui nous concerne, méfiez-vous des fake news. Merci beaucoup pour votre intervention. Très bonne journée.
Merci à vous. Bonne journée.